Vous êtes sur RTL.
12h30.
Vincent Parisot,
RTL Midi.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est RTL Midi jusqu'à 13h. On est avec vous où que vous soyez, notamment sur la route, car ce samedi 21 août marque aussi la fin des vacances et le retour à la maison pour nombre d'entre vous. Journée classée noire en Auvergne-Rhône-Alpes. On va faire un point sur les conditions de circulation dans un instant et prendre la température sur une aire d'autoroute. L'actualité de ce samedi, c'est toujours l'incendie du Var. Il est stoppé mais pas maîtrisé. La vigilance s'impose car le feu peut reprendre à tout moment avec la reprise du vent d'ouest, disent les pompiers. Plus de 7000 hectares de forêts, de vignes, de garrigues ont brûlé. En Afghanistan, 6 jours après l'entrée des talibans à Kaboul, des dizaines de milliers de personnes cherchent toujours à fuir le pays grâce au pont aérien. Opération difficile et historique, a reconnu Joe Biden hier soir. Le président américain qui a par ailleurs admis que des soldats américains avaient quitté l'enceinte de l'aéroport pour aller récupérer dans Kaboul un certain nombre de personnes. En France, le Rassemblement national, lui, lance une pétition contre l'accueil massif des réfugiés afghans. Le sujet divise les élus et au-delà des étiquettes politiques. À 12h45, nous serons avec le maire républicain de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. Il se dit prêt, lui, à accueillir des réfugiés dans sa ville. Un nouveau samedi de mobilisation contre le pass sanitaire. Plus de 200 manifestations sont prévues dans toute la France. À Paris, 4 cortèges et entre 10 et 20 000 personnes attendues. En Polynésie, l'épidémie continue de flamber. Les établissements scolaires vont fermer dès lundi et le confinement va se durcir pour 2 semaines. Plusieurs usines automobiles sont au ralenti, voire même à l'arrêt. C'est le cas pour Toyota à Honin, près de Valenciennes. L'usine va rester fermée 2 semaines. La plupart des salariés seront placés en chômage partiel. Explication, la pénurie de semi-conducteurs liée à la pandémie en Chine. Le football, Paris, leader de la Ligue 1, provisoirement, après sa victoire à Brest, 4-2 hier soir. À 17h, Monaco-Lens, et ce soir à 21h, Saint-Étienne-Lille, et puis les 24h du Mans, avec le départ à 16h, des Alpes sur l'asphalte et des spectateurs en tribune. Valérie Quintin,
oui.
Parlons du ciel, souvent ensoleillé mais parfois lourd et orageux.
C'est vrai, on a un petit peu tout et notamment cette dégradation orageuse qui va traverser une grosse moitié nord du pays dans les prochaines heures. Pour l'instant, on retrouve les pluies entre la Loire-Atlantique et la Seine-Maritime. Des pluies qui vont gagner les Hauts-de-France, le bassin parisien, la Touraine et puis la Charente-Maritime au fil des heures. Ces orages gagneront l'Auvergne et les régions du Grand Est en soirée et la nuit prochaine seulement. Plus au sud, bah, ça va quand même, beaucoup de soleil et puis dans l'Est évidemment aussi avant l'arrivée des pluies. On note tout de même un petit peu de grisaille sur les côtes langues de Sienne, ainsi que dans le sud-ouest vers le département du Lot ou encore des Pyrénées-Atlantiques et du Gers. Les températures, même fourchette, on ne change rien. 21 degrés à Brest au plus bas, 33 degrés à Lyon et Montélimar au plus élevé. Comptez 27 à Lille et Perpignan, 28 à Paris et Metz, 30 degrés à Dijon, à Marseille et Ajaccio.
Merci Valérie. Alors certes, Bison Futé a parfois des ratés, mais en général, quand il sort le drapeau noir, ça se passe pas bien sur les routes. Et ce samedi, étant noir, dans le sens des retours sur l'arc méditerranéen et la région Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien, on se dit que ça coince quand même. Qu'en est-il à l'heure qu'il est, Aurélia Valarier?
Alors là, vous commencez effectivement à être nombreux hein, sur les routes. On compte actuellement plus de 800 km de bouchons cumulés. Et c'est surtout dans le sud-ouest que le trafic s'intensifie en ce moment, notamment sur l'A10, entre Bordeaux et Poitiers. Comptez 1h10 de plus pour effectuer votre trajet, et c'est le cas dans les deux sens. Et la circulation est très importante aussi sur l'A7, entre Valence et Bolène, en direction de Marseille. Pour l'instant, c'est l'axe routier le plus encombré, avec 135 km de bouchons cumulés.
Merci Aurélia. Soyez patient, soyez prudent. Pensez à vous arrêter régulièrement. C'est l'occasion, évidemment, pour le conducteur de se reposer et pour les enfants de se détendre à 2 semaines de la rentrée des classes. Désolé de casser l'ambiance, mais quand même, avec des souvenirs plein la tête sur l'aire d'autoroute de Portes-les-Valences, on retrouve Serge Puyot.
Oui, sur l'aire d'autoroute, au milieu des voitures, les enfants ont des étoiles plein les yeux lorsqu'ils évoquent leurs vacances. Ennis, 13 ans.
Magnifique. Des vacances magnifiques au Gros du Roi. J'ai fait plein d'activités, j'ai été à la plage, j'ai fait des activités avec mes frères et sœurs, avec ma mère. Des jeux gonflables sur la mer, on a fait plein de choses.
Es-tu un peu triste de rentrer ?
Ouais, c'est difficile.
Bientôt l'école qui se profile à l'horizon ?
Ah oui, ben ça va recommencer, malheureusement.
Louis, 11 ans et demi.
On a passé des bonnes vacances, on était dans le Gard, on a fait le musée du bonbon Haribo, c'était super cool, enfin il y avait plein de bonbons et tout.
Tu as visité un musée du bonbon ?
Oui. On a été au pont du Gard aussi, c'était bien, c'était historique quand même. On a été à la bambouserie, c'est bien, il y a beaucoup de bambous.
C'est difficile de rentrer ?
Ah oui, c'est moins marrant.
Mais la plus heureuse, c'est...
Salomé.
4 ans et demi. On a fait la piscine. C'était trop bien la piscine. J'ai fait les gros toboggans. Et maman, elle m'a appris à nager. Après, j'arrivais à nager. J'ai sauté dans la piscine.
Des enfants qui rêvent déjà tous des prochaines vacances.
Il faudra attendre quand même un petit peu maintenant. Merci Serge Puyot sur la route du retour à Portes-les-Valences pour RTL. Alors plus au sud, dans le Var, les pompiers qui ont stoppé depuis hier la progression des flammes dans l'arrière-pays de Saint-Tropez et la plaine des morts appellent à la plus grande vigilance avant un épisode de vent qui est craint dans les prochaines heures sur le pourtour méditerranéen. À l'heure qu'il est en tout cas, le feu n'est pas totalement maîtrisé. Ça veut dire qu'il y a des reprises, qu'il faut surveiller de très près les lisières de cet incendie. Hugo Hamelin, vous êtes sur place pour RTL.
Ouais, les pompiers s'attendaient à une journée, pas une journée de répit, mais une journée sans surprise, hein, consacrée essentiellement à traiter les lisières de ce méga-feu. Mais ce n'est pas le cas, les flammes repartent à certains endroits, comme l'explique la capitaine Manayoni des sapeurs-pompiers du Var.
Ce matin, on a été confrontés à plusieurs reprises de feu qui ont été traitées par les moyens terrestres et aériens. Et au moment où je vous parle, on est engagé sur deux autres prises de feu. Donc on s'affaire à les traiter dès leur identification afin d'éviter le développement sur des feux plus importants.
Des milliers de touristes débarquent également aujourd'hui dans cette zone sinistrée, mais toujours touristique. Des campeurs avec forcément des comportements à adopter pour éviter d'aggraver la situation.
Surtout faire attention aux mégots. Ça peut paraître évident, mais c'est encore des actes qu'on observe trop souvent et qu'il faut absolument bannir de nos comportements au quotidien.
La difficulté, c'est aussi que 40% des 1200 pompiers engagés ici ont été renvoyés dans leur caserne parce que, vous l'avez dit, un important Mistral va se lever demain et menacer toute la côte méditerranéenne de Perpignan à Nice. Et pas le temps d'ici ce soir de noyer toutes les zones incandescentes. Un pompier me confiait que ce feu, il est impossible à éteindre.
Hugo Hamelin, envoyé spécial d'RTL dans le Var. 6 jours après l'entrée des talibans dans Kaboul, le président américain s'est une nouvelle fois exprimé hier soir à la télévision, une allocution de la Maison Blanche. Il fait face à de nombreuses critiques avec ces images de chaos à l'aéroport de Kaboul qui renforcent le sentiment d'impréparation du départ américain. Joe Biden a notamment parlé du pont aérien mis en place depuis cet aéroport, l'un des plus importants et difficiles de l'histoire, a-t-il affirmé, tout en refusant de promettre qu'il n'y aura pas de perte. Et puis Joe Biden a annoncé qu'à l'image de l'opération qui a été menée par le RAID depuis l'ambassade de France mardi dernier, des soldats américains sont bel et bien sortis de l'enceinte de l'aéroport de Kaboul pour aller récupérer des personnes. Aux États-Unis pour RTL, Karine Houghton.
Oui, depuis lundi, Washington insistait sur le fait que ses troupes restaient bien à l'intérieur de l'aéroport de Kaboul pour éviter tout affrontement inutile avec les talibans. Et la presse américaine s'agaçait de voir les autorités européennes lancer des opérations plus risquées au secours de civils. Alors Joe Biden a lâché cette information au détour de son discours.
Among the many Americans we evacuated, there were 169 Americans.
169 personnes ont été secourues par des soldats américains cette semaine. Le porte-parole du Pentagone a ensuite confirmé que 3 hélicoptères ont été récupérés, ce groupe, dans un hôtel à 200 mètres de l'aéroport, groupe qui craignait ne pas réussir à franchir les grilles à cause de la foule massée à l'entrée. Il se pourrait aussi que l'administration Biden fasse surtout profil bas sur ses missions d'extraction, certainement pour s'assurer de leur succès. Hier, un hélicoptère aurait ainsi transporté 96 femmes et enfants afghans jusqu'à l'aéroport Hamid Karzai de Kaboul.
Karine Houghton aux États-Unis pour RTL. Une courte pause et puis dans un instant nous serons dans la manif parisienne des antipasses sanitaires. À tout de suite.
Vincent Parisot,
RTL Midi.
C'est Vincent Parisot,
RTL Midi.
En Guadeloupe, tous les professionnels de santé sont appelés à se faire vacciner par l'ordre des médecins qui rappellent leur obligation aux soignants, mais aucune sanction n'est prévue pour l'instant, malgré la situation explosive dans les hôpitaux. 300 soignants et pompiers sont d'ailleurs partis hier de Paris pour la Guadeloupe et la Martinique. La Polynésie est également durement frappée. Conséquence, les écoles, les collèges et les lycées polynésiens vont fermer dès lundi dans tout l'archipel. Et pendant ce temps, en métropole, la vaccination continue de diviser, tout comme le pass sanitaire. 200 manifestations anti-pass sont organisées aujourd'hui en France pour ce 6e samedi de mobilisation. À Paris, pas moins de 4 cortèges. L'un d'eux s'était lancé en fin de matinée du 7e arrondissement direction Bercy. Vous êtes sur place, Valentin Boissé.
Oui, bonjour Vincent. Alors, je me trouve face aux Invalides, place de Fontenoy. Pour l'instant, ils sont quelques centaines à s'être rassemblés avec toujours le même mot d'ordre, la liberté, mais aussi aujourd'hui l'expérience de l'application du pass sanitaire. Avec ces pancartes, nous sommes entrés dans le contrôlistan ou alors j'ai été refusé côté à Auchan. Il y a encore ici des nouveaux manifestants aujourd'hui, comme ce couple par exemple que vous allez entendre. Ils viennent pour la première fois, ils ont été refusés à plusieurs restaurants et c'est ce qui les a motivés à venir aujourd'hui.
C'est vraiment une restriction des libertés et si vous voulez aller quelque part ou faire des choses, vous dites, allez, par dépit, vous vous orientez vers la vaccination la plupart du temps. Donc je dirais que ça sera un peu trop tôt.
Je ne suis pas pour la vaccination de masse des enfants et surtout je suis pour la responsabilisation de chacun. On a été contraints dans les restaurants où effectivement on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, manger ce qu'on voulait, etc. quand on est en vacances parce qu'il fallait un pass sanitaire.
Trois autres manifestations sont prévues dans Paris aujourd'hui. Le ministère de l'Intérieur s'attend à au moins 170 000 personnes dans tout le pays, ce qui reste un chiffre de mobilisation élevé en cette période estivale. Et le cortège où je me trouve va maintenant s'élancer d'ici 13 heures sous la chaleur, car le mercure aujourd'hui va monter à Paris à plus de 28 degrés.
Merci Valentin Boisset. La rentrée sociale se précise. Les syndicats et le patronat seront reçus à tour de rôle à Matignon les 1er et 2 septembre. Objectif, un point complet de l'actualité sociale, la crise sanitaire, la réforme de l'assurance chômage, plusieurs fois reportée, et l'éventuelle réforme des retraites dont les syndicats ne veulent pas entendre parler avant la présidentielle. Conséquence de la pandémie qui frappe aussi l'Asie, la pénurie de semi-conducteurs, ces composants électroniques sortent à un rythme ralenti et les conséquences sont lourdes pour certaines industries, la téléphonie, les jeux vidéo, mais surtout l'automobile. Certaines usines sont totalement à l'arrêt. Pour le constructeur français Stellantis, 2 jours et demi à Sochaux, 5 jours à Rennes. Mais pour Toyota à Aonin, près de Valenciennes, c'est 2 semaines de fermeture avec du chômage partiel pour les salariés. Écoutez le représentant de la CFDT de Toyota Aonin, Thomas Mercier.
La direction a envoyé un SMS à chaque salarié, ce qui a été un gros coup de massue quand même pour les salariés Toyota, sachant qu'on sort d'une période de congé de 3 semaines. Et donc 2 semaines supplémentaires, une majorité quand même de salariés sont inquiets. On a connu le Brexit, on a connu les intempéries, on a connu le Covid, on le connaît encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui peut durer dans le temps. Le semi-conducteur, c'est une petite pièce qui vient forcément de l'étranger, mais c'est une petite pièce qui est aujourd'hui présente dans l'électronique aujourd'hui, aussi bien l'automobile que la vie quotidienne. Donc forcément, c'est un impact qui est déstabilisant quand même parce qu'on se dit c'est une toute petite pièce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à produire. Mais maintenant, ce que je peux appeler, c'est au niveau national, même au niveau régional, c'est d'essayer d'apporter des usines en France de semi-conducteurs, ce qui serait vraiment bénéfice pour toutes les entreprises françaises.
Voilà le délégué CFDT de Toyota Valenciennes avec Antoine Decarne. Le sport, le foot, le Paris Saint-Germain est leader provisoire de la Ligue 1 après sa victoire hier soir, la 3e en 3 matchs, 4-2 à Brest. Cet après-midi, Monaco reçoit Lens à 17h. À 21h, Saint-Etienne accueillera Lille. En tout cas, sur RTL, rendez-vous à 18h30 avec On refait le match et Christian Olivier. Et puis ensuite, à 20h avec RTL Foot. Et puis, c'est à 16h, dans moins de 3h30 donc, que sera donné le départ de la 89e édition des 24 heures du Mans. 61 voitures sont engagées sur le circuit de la Sarthe. Toyota va s'élancer en pole position. Devant elle, Alpine, qui fait son grand retour. Mais l'autre grand retour, c'est celui du public. Absent l'an dernier, 50 000 spectateurs seront présents. C'est beaucoup moins que pour une édition normale, bien sûr. Mais en cette période de restrictions sanitaires, c'est déjà miraculeux, Frédéric Veil.
Oui, alors c'est vrai qu'on est loin des 250, voire 300 000 spectateurs habituels, mais c'est déjà mieux que l'an passé où l'épreuve s'était déroulée à huis clos. Laurent Mercier a suivi les 30 dernières éditions. Il est le rédacteur en chef d'Endurance Info.
Je pense qu'il faut se réjouir quand même du retour quand même des spectateurs, même si c'est en nombre limité. Et évidemment, on espère qu'on aura encore 200 000 personnes en 2022.
En attendant, c'est passe sanitaire obligatoire pour entrer sur le circuit et port du masque obligatoire dans toute l'enceinte sportive. Emmanuel Passionné vient au Mans depuis plus de 20 ans.
Ouais, c'est vrai que ça ajoute un petit peu à la difficulté d'accès. Et puis bon, on se tape le masque à l'extérieur. Avec la foule, c'est un petit peu contraignant, on va dire.
Mais la magie opère toujours. Estelle est venue de Vendée pour assister aux 24 heures.
Ça fait plaisir de venir et de voir les belles voitures.
Il y avait 250 000 spectateurs il y a 2 ans.
À peine
50 cette année.
Ça va faire bizarre. Effectivement, c'est ce qu'on se demande. On attend de voir. Mais on verra. C'est mieux que l'année dernière quand même. Au moins, on est là.
Et à un peu plus de 3 heures du départ, les tribunes continuent de se remplir, car vous l'entendez certainement derrière moi. Il y a déjà des courses sur le circuit en préambule à la grande ronde des 24 heures.
Frédéric Veil sur l'asphalte. Frédéric qui vous fera vivre en direct à 16h sur RTL, ce départ des 24 heures du Mans, avec évidemment par la suite des points réguliers sur la course. Il est 12h46, on marque une courte pause et dans un instant on accueille Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, prêt à accueillir des réfugiés afghans.
RTL Midi. RTL Midi, Vincent Parisot.
Invité d'RTL Midi, le maire Les Républicains de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur RTL. Vous faites donc partie de ces maires à vous être prononcés pour l'accueil de réfugiés afghans dans votre commune. Vous allez donc nous dire pourquoi et dans quelles conditions vous pensez le faire. Mais j'aimerais tout d'abord votre réaction à cette pétition qui a été lancée par le Rassemblement National contre, je cite, l'accueil massif de réfugiés afghans, contre ce que le mouvement appelle une autoroute migratoire. Le RN estime qu'il y a un risque pour les Français à accueillir ces réfugiés afghans. Pas vous ?
Écoutez, dès lors que les Nations Unies annoncent que les talibans traquent les Afghans qui, aux côtés des Américains, aux côtés des Français, ont tenté de rétablir une démocratie, alors même que les talibans, on le voit bien, veulent de nouveau instaurer une théocratie, la question de l'accueil des réfugiés politiques, et c'est bien de cela dont on parle, et le Front National, comme habituellement, comme c'est son habitude, comme c'est son fond de commerce, profite de ce drame humain pour fabriquer des amalgames qui sont totalement inacceptables, qui ne sont pas la France, qui ne sont pas nos valeurs et notre honneur. Je rappelle que l'accueil des réfugiés politiques, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est dans le préambule de notre Constitution. Il ne s'agit pas évidemment d'ouvrir les vannes à une immigration illégale massive. Il s'agit d'accueillir des femmes, des hommes, des enfants qui risquent leur vie à cause de leurs convictions dans leur propre pays. Et ça, c'est l'histoire de la France, c'est aussi l'histoire de Saint-Étienne, et c'est la raison pour laquelle, comme je l'avais fait en 2015 avec les réfugiés syriens, je suis d'accord pour accueillir des réfugiés politiques dans ce cadre-là.
Comment allez-vous pouvoir les accueillir avec quels moyens et combien d'ailleurs pensez-vous en accueillir ?
Avec beaucoup de méthodes, comme nous l'avions fait en 2015 avec succès. Alors évidemment, à l'annonce, il y a toujours à la fois ceux qui encouragent, qui se félicitent et qui sont fiers de cette main tendue. Et puis il y a ceux qui sont plutôt dans l'insulte, dans l'invective. Écoutez, 6 ans après, c'est plus un sujet, la question des Syriens à Saint-Étienne. J'ai réuni autour de la table les bailleurs sociaux, les associations d'éducation populaire, les services municipaux, l'éducation nationale, l'université. Il s'agit bien entendu d'accompagner de ces personnes. Nous en avons accueilli une trentaine simultanément entre 2015 et 2018 pendant une période d'environ 6 mois chacune. Le temps en fait qu'ils puissent se reconstruire, qu'ils puissent apprendre le français, rebondir.
Vous savez ce qu'ils sont devenus ces Syriens que vous aviez accueillis?
Certains sont retournés dans leur pays, d'autres sont allés dans d'autres villes en France rejoindre des amis, de la famille, d'autres sont restés à Saint-Étienne. Le quotidien local traçait un parcours la semaine dernière d'un Syrien qui est resté dans notre ville, qui a ouvert un commerce. C'est pas un sujet. Vous savez, le principal sujet qui crée d'ailleurs cette polémique et sur laquelle le Rassemblement National dont vous parliez tout à l'heure surfe et qui est de la responsabilité du gouvernement, ce sont ces immigrés illégaux, déboutés du droit d'asile, qui restent sur le territoire national sans statut ni droit, qui sont contraints à mendier dans les carrefours de nos villes, parce qu'ils n'ont aucun droit, ni celui du travail, ni celui du logement. Et donc le problème, il est là. Donc quand le gouvernement appliquera la loi de manière très stricte vers tous ceux qui n'ont rien à faire sur notre territoire et les expulsera dans leur pays d'origine, eh bien je crois que la place que nous laisserons aux réfugiés politiques qui, eux, risquent leur vie dans leur pays sera beaucoup plus importante et beaucoup mieux comprise par nos concitoyens.
Est-ce un sujet politique ou est-ce un sujet qui dépasse les clivages politiques ? Parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de maires annoncer leur intention d'accueillir des réfugiés. La plupart sont de gauche ou écologistes, hein, à Lyon, à Grenoble, à Clermont ou à Strasbourg. Chez les Républicains, vous êtes peu nombreux. D'ailleurs, certains ont pris une position très différente de la vôtre. Je pense à Christian Estrosi à Nice.
Oui, pour un ancien ministre, on aurait pu espérer de sa part un peu plus de hauteur de vue. Non, moi je crois très sincèrement que ça dépasse très largement les partis politiques, les clivages habituels. L'humanisme n'a pas de carte de parti politique. Encore une fois, je rappelle que c'est dans la Déclaration des droits de l'homme. Je rappelle que c'est dans le préambule de notre Constitution. Et donc c'est tout simplement les valeurs de la France, bien au-delà des valeurs de tel ou tel parti politique.
Vous êtes prêt, c'est-à-dire que vous pourriez en accueillir à partir de quand ?
Alors vous savez que c'est l'État qui va d'abord accorder le statut de réfugié politique à telle ou telle personne, c'est de sa responsabilité avec l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, donc c'est l'État qui va dire si telle ou telle personne effectivement est réfugié politique et puis dès lors va les répartir dans les villes, d'ailleurs candidate ou non. Si l'État décide d'en installer à Nice, Monsieur Estrosi peut bien dire ce qu'il veut, il en installera à Nice. Simplement moi ce que je souhaite c'est anticiper et organiser justement cette arrivée, parce que je sais qu'au-delà de 30, ben, nous ne serons pas en capacité de le faire de manière vraiment individualisée et donc de la meilleure des façons. Donc je souhaite faire ce que d'autres n'ont pas fait, c'est-à-dire anticiper pour assurer ce bon accueil. Et ça, ce sera possible dès la semaine prochaine, si l'État le souhaite.
Dès la semaine prochaine. Merci beaucoup Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne. Merci d'être intervenu sur RTL. Courte pause et puis dans un instant, on vous emmène sur la Nationale 13, direction la Normandie.
RTL Midi, Vincent Parisot. Vincent Parisot, RTL Midi.
On parle de la route, nos plus belles routes, pas celles des bouchons que vous affrontez peut-être en ce moment. Nos plus belles routes, c'est avec Christophe Bourou, les routes mythiques et aujourd'hui la Nationale 13.
Christophe Bourou sur RTL, nos plus belles routes de vacances.
Et cette Nationale 13, vous la connaissez surtout grâce à cette air-là. Un homme et une femme. 1966, film de Claude Lelouch avec la Ford Mustang sous la pluie le long de cette nationale. Film qui a popularisé cette route qui mène depuis Paris à la Normandie et qui très tôt va accueillir sur ses premiers kilomètres une autoroute, comme nous l'explique Thierry Dubois, grand spécialiste des nationales.
Alors ici, on passe le tunnel de Saint-Cloud. C'est l'autoroute A13, l'autoroute de Normandie, qui a été inaugurée en 1946. C'est la première autoroute de France mise en service, bien avant l'autoroute du Sud. Et il y avait donc ce tunnel de Saint-Cloud, assez extraordinaire, qui était la porte vers la Normandie et la Bretagne. Une façon moderne et rapide de sortir de la capitale.
Et l'on quitte ce bout d'autoroute pour la nationale que l'on parcourt aujourd'hui à bord d'une Dodge, voiture américaine des années 50. Clin d'œil à l'histoire.
Alors la Nationale 13, elle traverse aussi un village très connu, hein, Sainte-Mère-Église. Là, on voit l'église qui, depuis 1944, garde un parachute accroché au clocher puisqu'il y avait un parachutiste qui était resté suspendu là pendant les combats. Sainte-Mère-Église, elle a le privilège d'être la première ville libérée de France.
Et c'est un air d'Amérique qui plane tout au long de cette route comme à Évreux.
Voilà, on arrive à Évreux et à l'entrée d'Évreux, il y a cette grosse base aérienne, la BA-105, qui a été longtemps une base de l'OTAN américaine. Évreux, c'était une ville qui vivait vraiment à l'heure américaine. Et toute la jeunesse a connu le rock'n'roll, les voitures américaines, les flippers, bien avant le reste des Français parce qu'ils étaient vraiment plongés dans ce rêve américain. Il y avait plusieurs cités américaines avec des petits pavillons identiques aux USA. Toutes ces choses qu'on voit toujours dans les films américains et qui étaient tout à fait nouvelles en France, quoi.
Mais c'est avant-guerre que cette Nationale 13 va littéralement décoller avec les congés payés.
En 1936, quand il y a eu les congés payés, la première route qu'ils ont prise, c'est la Nationale 13, parce que c'était la mer la plus proche. Puis tous ces gens-là n'avaient pas de voiture, donc ils prenaient plutôt leur vélo. Et donc, au bout de 180 km, ils découvraient la mer. Et pour tous, c'était la première fois qu'ils voyaient la mer.
Chic et populaire à la fois, la Nationale 13 a vu passer des milliers de vacanciers, ambiance que Luc a su recréer à la perfection dans son musée d'Haussmanville, dans le Calvados.
Alors, l'idée de Dieu, c'est de recréer une vieille station-service, un vieux bistrot. Donc on a des vieilles pompes à essence, on a des vieux meubles qui équipent le garage avec, comme vous le voyez, de vieux outils, une vieille dépanneuse. Alors on a des vieilles caravanes d'époque, des vieilles voitures d'époque. Des fois, quand on est courageux, on sort le parasol, la table de camping et les chaises à ressort.
Ah, cette atmosphère des chassés croisés estivaux, Pierre s'en souvient comme si c'était hier. Il faut dire que sa chambre, juste au-dessus du garage familial, donnait directement sur la route.
Ça roulait tellement que quand ça s'arrêtait, nous, ça nous réveillait parce qu'on était bercés par ça depuis toujours, quoi.
C'était un bruit permanent. Hein. Ça nous berçait. Quoi. Quand ça s'arrêtait, nous, on se trouvait réveillés parce qu'on se disait il y a quelque chose d'anormal. Alors, mais la plupart du temps, on était bercés par le bruit des voitures. Quoi. C'était jour et nuit, là, pratiquement.
Plus calme, la Nationale 13 le deviendra lorsqu'elle se fera doubler par le prolongement de l'autoroute dans les années 70. C'est d'ailleurs sur ce tracé que sont nés les tout premiers péages d'un nouveau genre.
Alors c'est à Mantes-la-Jolie où il y a eu le premier péage où on jetait des pièces dans un panier, quoi. Alors c'est vrai que l'idée était bonne, hein. On arrivait, on ouvrait la fenêtre, on posait ses pièces dans le panier. Le problème c'est qu'une fois sur deux, les gens jetaient leurs pièces à côté. Alors à chaque fois il fallait s'arrêter, ouvrir la porte qui bien sûr était bloquée par le panier. Alors ça fait rire aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'à l'époque quand les gens étaient derrière et attendaient, ça énervait bien ceux qui jetaient leurs pièces à côté. À tel point que je me souviens d'avoir vu une fois un monsieur, il avait une louche pour mettre ses pièces délicatement dans le panier. Je pense qu'il avait dû envoyer ses sous plusieurs fois à côté, donc là, il avait pris ses précautions.
Et si vous voulez éviter de jeter l'argent par les fenêtres, vous pouvez toujours prendre le chemin des Écoliers pour arriver par cette nationale jusqu'à Cherbourg, comme à la belle époque.
Alors cette arrivée sur Cherbourg, elle faisait rêver parce qu'il y avait tout un tas de voitures de luxe qui amenaient tous les passagers des paquebots qui partaient pour les États-Unis, quoi. Et donc, elles allaient aux embarcadères de la CGT, la Compagnie Générale Transatlantique. Mais il y avait tous ces gens chargés de bagages riches avec des malles, des bagages en nombre et tout, dans des superbes voitures. Ça faisait vraiment rêver de les voir passer.
C'est ici que notre périple s'achève, 338 km depuis Paris. Avec cette particularité, c'est l'une des seules routes dans le monde à porter le chiffre.
Nos plus belles routes de vacances sur RTL.
À retrouver sur RTL.fr et sur l'application RTL. Il est 13h01.
Vincent Parisot,
RTL Midi.
Samedi 21 août, la fin des réjouissances pour de nombreux vacanciers. Journée classée noire par Bison Futé dans le sens des retours sur l'arc méditerranéen, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour l'instant, on va dire que ça pourrait être pire, Aurélia Valarié, même si évidemment il y a quand même des bouchons. Hein.
Alors oui, effectivement, ça pourrait être pire. Hein. Pour l'instant, la circulation reste assez fluide sur l'arc méditerranéen, ce qui n'est pas le cas dans la vallée du Rhône. Sur la 7 en direction du sud, comptez 2h50 pour faire Lyon-Orange au lieu d'1h30 habituellement. Trafic chargé aussi dans le sud-ouest sur la 10 entre Bordeaux et Poitiers. Et enfin, si vous êtes en Bretagne, soyez vigilants. Plusieurs ralentissements sur la nationale 165 dans les deux sens, notamment autour de Saint-Avé, Hennebon et Quimperlé.
Merci. Face à la flambée de l'épidémie de Covid, la Polynésie décide de fermer ses écoles, ses collèges et ses lycées dès lundi. Le président de l'archipel annonce un durcissement du confinement pour 2 semaines. Le taux d'incidence est là-bas de 2800 cas pour 100 000 habitants. C'est le plus élevé de France. Plus élevé encore qu'aux Antilles, où la situation est pourtant dramatique dans les hôpitaux de Guadeloupe et de Martinique. 300 nouveaux volontaires y ont été envoyés en renfort hier. En métropole, alors que la vaccination marque encore un peu plus le pas, 200 manifestations anti-pass sanitaires sont organisées aujourd'hui en France. Un quatrième avion d'exfiltré de Kaboul s'est posé hier soir à Paris avec un peu plus d'une centaine de personnes à bord, dont 99 Afghans. Dans le Var, le gigantesque incendie de l'arrière-pays de Saint-Tropez a détruit plus de 7000 hectares de forêts, vignes et garrigues. Il a fait 2 morts et à l'heure qu'il est, le feu est stoppé mais pas maîtrisé. Des reprises sont possibles. La population est appelée à la plus grande vigilance. Le foot, un match cet après-midi à 17h, Monaco-Lens. Ce soir, Saint-Etienne-Lille à 21h. Hier soir, le PSG est allé gagner à Brest, 4-2. Et puis quelques mots du ciel, Valérie Quintin.
Eh bien, ça va pas trop mal se passer quand même dans l'ensemble. On a pas mal de soleil sur une large moitié est et dans le sud du pays. Mais il y a aussi une dégradation orageuse qui a abordé le nord-ouest. Ça donne des pluies entre les Pays de Loire et la Normandie à l'heure qu'elle est. Des pluies qui vont avancer vers les Hauts-de-France, le bassin parisien, la région centre cet après-midi, puis vers le Grand Est dans la soirée. Le soleil, lui, va se maintenir donc près de la Méditerranée, mais aussi dans le sud-ouest. Tout cela avec des températures à peu près stables, comprises entre 20 degrés à Cherbourg et 32 degrés à Grenoble. Comptez 28 degrés à Paris comme à Nice, 29 à Nancy, 31 pour Ambérieu et Toulouse.
Merci Valérie. Tout de suite sur RTL, les voix du crime avec Diane Douzi.